Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. François Fillon pourra dire merci à Nicolas Sarkozy. Celui dont il fut le Premier ministre vient de lui offrir, momentanément et involontairement, un peu de répit. L'ancien chef de l'État est renvoyé en correctionnel dans l'affaire Big Malion. Il devra répondre de financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. La justice lui reproche d'avoir sciemment dépassé le plafond des dépenses autorisées, à savoir 22,5 millions d'euros. Dépasser le plafond autorisé, c'est un exploit qui n'est pas à la portée de tous les candidats. Au Front National, la question du moment serait plutôt de trouver suffisamment d'argent pour financer les campagnes de la présidentielle et des législatives. Le FN se dit victime de l'ostracisme des banques françaises. Or, sans prêt bancaire, difficile de mener de telles campagnes. Cette question du financement n'est pas nouvelle, elle se pose à chaque grand rendez-vous électoral. Mais comme le démontre l'affaire Fillon, c'est aussi une problématique de tous les jours dans la vie politique, qu'elle soit nationale ou locale. Les règles existent, qui déterminent le niveau de rémunération des élus et de leurs collaborateurs, mais sont-elles suffisantes et pertinentes? La vie politique est-elle sous-financée? C'est notre question du soir que nous allons poser à Séverine Tessier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la cofondatrice de l'association Anticor, association qui lutte contre la corruption et qui vise à l'éthique en politique. Vous êtes par ailleurs ancienne collaboratrice parlementaire du député Christian Paul. Vous avez exercé ce métier pendant une quinzaine d'années.
Oui.
Pour discuter avec vous, Romain Colas, bonsoir.
Bonsoir.
Député socialiste de l'Essonne, vous êtes membre de la commission des finances, vous êtes par ailleurs maire de Boussy-Saint-Antoine, c'est également évidemment dans l'Essonne, et vous êtes notamment l'auteur du rapport parlementaire intitulé « Financement des campagnes électorales et des partis politiques », rapport qui date de juillet 2015. Et puis notre troisième invité se trouve en duplex des studios de France Bleu Nord à Lille, il s'agit d'Abel François, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'université Lille 1, notamment chercheur au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po, et vous avez co-signé avec Éric Philippot en 2015 chez Armand Collin le financement de la vie politique, réglementation, pratiques et effets politiques. Alors pour commencer cette discussion, je voudrais qu'on démarre avec l'affaire Fillon et les propos d'Alain Minc. Alain Minc, économiste, soutien d'Emmanuel Macron aujourd'hui, après avoir conseillé le président Nicolas Sarkozy, et selon qui l'affaire Fillon est révélatrice d'un problème de sous-rémunération des politiques. C'est ce qu'il expliquait fin janvier sur iTélé.
Personne ne dit que le métier politique n'est pas décemment payé. Il faut appeler un chat un chat. Je veux dire, aussi longtemps que le métier politique sera payé de manière très très faible, surtout avec le non-cumul des mandats, on sera face à des situations aussi compliquées que celle-là. Moi, il m'arrive de recevoir, c'est le privilège de l'âge, des jeunes qui veulent se lancer en politique. Et vous savez, la question que je leur pose, je leur demande, avez-vous un patrimoine ou avez-vous une âme de moine-soldat ?
Alors Romain Colas, Séverine Tessier, Abel François, je vais vous poser la même question à tous les trois. Que pensez-vous de ce lien que fait Alain Minc entre cette affaire Fillon et la question d'un sous-financement, plutôt d'une sous-rémunération des responsables politiques, en l'occurrence des députés, puisque François Fillon était député à propos des... quand on parle des faits qui lui sont reprochés. Romain Colas.
Je pense que ça dépend du niveau des élus, mais je veux d'abord rappeler ce qui devrait être une vérité pour toutes et tous. C'est que d'abord, la politique n'est pas un métier. En tout cas, quand on exerce des fonctions électives, on les exerce pour un temps donné au titre d'un mandat, même si effectivement, pour accéder à certaines responsabilités face aussi à la complexité de la gestion publique, plusieurs, moi j'en fais partie, je me suis engagé dans la vie publique il y a une dizaine d'années, choisissent d'y consacrer une partie de leur vie et de fait, un temps donné de leur vie deviennent des professionnels de la politique. Enfin, dire que les parlementaires sont pas correctement rémunérés, je le suis moi-même, et franchement, quand on sait ce qu'est le salaire médian dans ce pays, c'est juste indécent. Et la vérité qu'on doit rappeler, c'est que non seulement la politique est pas un métier, puis qu'a priori, on fait pas ça pour s'enrichir. Si on veut effectivement faire comme objectif numéro un de sa vie, de gagner de l'argent, de faire de l'argent, il faut sans doute faire autre chose que de la politique, même si encore une fois, les parlementaires n'ont pas à se plaindre. Je pense qu'en revanche...
Vous gagnez combien, vous, comme député?
L'indemnité parlementaire, elle s'élève à 5 000 euros. Voilà, 5 000 et quelques euros. Et puis je suis également maire de ma commune, donc moi je suis écrété, je dois être en plus de mes 5000 euros d'indemnité parlementaire à 1600 plus 300 ou 400 euros de revenus de mes mandats locaux. Ça va se finir parce qu'on a adopté une belle loi sur le non-cumul des mandats, et sur ces indemnités je finance aussi ma formation politique. Ça dépend des formations politiques, mais il faut que vous le sachiez parce que ça viendra dans le débat. On est amené, élus locaux, moi en tout cas, comme élus nationaux, en tant que membre du Parti Socialiste, à financer notre formation politique. Je pense que si, pour terminer, il y a un sujet sur le niveau d'indemnité de certains élus, c'est peut-être du côté certains élus locaux dans les communes moyennes qu'on a sans doute à regarder, parce que c'est vraiment, pour eux, un choix cornélien entre niveau de vie et niveau d'engagement pour leur collectivité. Et ce choix, il peut se faire parfois au détriment de la collectivité.
Sachant qu'il aurait fallu aussi rajouter à ces indemnités l'enveloppe que chaque parlementaire touche pour faire face à ces dépenses des publics qui tournent aux alentours de 5 770 euros. Enfin, je dis aux alentours, je crois bien que c'est la somme précise. Séverine Tessier.
Alors, ce qui a été dit par M. Mac est une véritable provocation. D'ailleurs, par l'expérience qu'on en a avec Anticor, depuis le temps que nous combattons la corruption, c'est hélas souvent la réponse qu'on nous fait. S'ils sont corrompus, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. En réalité, la corruption, les condamnations le prouvent, frappe surtout des élus qui sont les mieux dotés par la République, en fait. Donc les plus cumulants et ceux qui ont finalement le plus de pouvoir. Et donc, c'est étonnant d'entendre cet argument qui est totalement contraire à la vérité judiciaire.
Qui peut quand même relever d'une certaine logique. On peut se dire qu'effectivement, plus on a d'argent, moins on est censé être tenté d'aller le chercher ailleurs.
C'est précisément le contraire, ce qui se passe. Et on pourrait alors à ce moment-là dire que parce qu'une infirmière n'est pas assez payée, va aller voler des sacs à main, etc. Bon, enfin, dans ce sens-là, ça n'a pas de justification. C'est le bon sens parle de lui-même. Après, il y a effectivement une inéquité par rapport aux élus locaux qui fournissent un travail parfois colossal et qui sont souvent injustement rémunérés, avec des difficultés de traitement social aussi également lorsqu'ils sont congédiés ou lorsqu'ils quittent leur fonction. Il y a quand même une interrogation qui est très rarement posée, qui concerne la fiscalité des indemnités. Je vous invite à poser la question aux parlementaires et aux élus locaux sur leurs impôts. Et notamment, par exemple, l'indemnité représentative de frais de mandat des députés qui n'est pas fiscalisée. C'est quand même, on l'a montré,
il y a eu 5 770 euros.
Il y a eu quelques révélations, notamment de Mediapart, d'autres journaux, concernant les abus et l'enrichissement personnel de certains députés par le biais de cette autre indemnité, qu'on cite rarement lorsqu'on parle des revenus des députés.
Donc, on est loin, pour vous en tout cas, également Séverine Tessier, d'un sous-financement des élus, en tout cas au moins des élus nationaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Abel François? Est-ce que vous considérez qu'il y a un problème de rémunération des politiques? Peut-être qu'on peut d'ailleurs faire une comparaison avec nos voisins européens. Est-ce que, par exemple, les élus français sont plutôt bien payés par rapport à leurs voisins, plutôt mal, plutôt à peu près de la même manière?
Alors effectivement, quand on se pose la question de savoir si on est bien payé, il faut savoir par rapport à quoi ou par rapport à qui, par rapport à quels critères on peut utiliser pour évaluer ou pas la justesse du niveau de rémunération qu'on a. Si on regarde par rapport à l'espace, notamment par rapport à nos voisins européens, dans l'Union européenne, on se rend compte que la France, les parlementaires français, sont approximativement à la moyenne de l'Europe, mais des 27 européens. Et on va dire qu'elle fait partie, elle est dans le mou des grands pays, on va dire, d'Europe de l'Ouest, hein, à peu près au niveau des parlementaires français, sont à peu près payés au niveau des luxembourgeois ou des anglais. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans le temps, on voit que si on regarde l'évolution, une fois pris en compte l'inflation des rémunérations des députés, on se rend compte que depuis les années 70, la rémunération directe, ce dont vous parliez, hein, les indemnités, le montant total a diminué en termes réels. C'est-à-dire, une fois qu'on en prend l'inflation, depuis 1970, les indemnités des députés ont diminué.
Et par rapport aux élus locaux qu'évoquaient à la fois Romain Colas et Séverine Tessier, est-ce que là aussi vous feriez une différenciation entre ce que touchent les élus nationaux et ce que touchent les élus locaux? Un problème d'inéquité là aussi?
d'inéquité, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des différences qui peuvent être importantes entre les élus nationaux, les élus locaux, et même à l'intérieur des élus locaux, entre les patrons des grandes collectivités territoriales, les exécutifs chefs des exécutifs des grandes collectivités territoriales, et puis les chefs des exécutifs de collectivités plus, de taille plus moyenne. Le problème des élus locaux, c'est que alors, la rémunération totale, en fait, ce que consacre l'État dans son budget à la vie politique en général, le premier poste de dépense, c'est la rémunération des élus. C'est-à-dire que si on regarde, si on additionne ce qu'ils dépensent pour les campagnes, pour les partis politiques et pour les élus, c'est le poste des élus qui arrive en premier. Pourquoi ? Parce que non pas qu'on soit particulièrement, enfin que les élus français soient particulièrement bien payés, mais on a énormément d'élus. Donc effectivement, comme on a beaucoup d'élus, notamment beaucoup d'élus locaux, et comme le budget n'est pas à taille restreinte, eh bien beaucoup d'élus locaux, comparativement à leurs voisins européens, mais qui ont des responsabilités généralement qui sont plus larges et qui travaillent sur des collectivités qui sont beaucoup plus grandes, là on peut dire que les élus locaux français sont bien moins payés que les élus locaux d'autres pays européens.
Est-ce qu'avec la fin du cumul des mandats, Séverine Tessier ne va pas se poser aussi le problème d'une sous-rémunération, cette fois-ci vraiment de certains élus locaux, c'est-à-dire qui ne pourront plus cumuler donc des indemnités et qui peuvent être peut-être un peu moins tentés justement de se lancer en politique?
On ne va pas les plaindre. Si ils sont dans une telle course au pouvoir, les uns et les autres savent suffisamment se tirer les cheveux pour aller à la conquête électorale, c'est parce qu'il y a quand même un intérêt au pouvoir et notamment un intérêt de carrière. Quand je disais les élus locaux, parfois, je parlais surtout des élus locaux dans les petites communes, hein, bien sûr, puisque si on cite par exemple les conseillers régionaux, certains, notamment en Ile-de-France, je crois que c'est autour de 2 500 €, alors que la responsabilité n'est pas du tout la même que pour les maires de ces communes où justement la responsabilité pénal peut être engagé et qui ont une tâche colossale, un travail parfois 24 heures sur 24. Donc il y a vraiment des disparités très fortes et je voulais insister là-dessus. L'autre sujet qui me paraît quand même essentiel, c'est que le contribuable, donc le décideur, le souverain, c'est le citoyen. Donc il faudrait quand même que cette question soit d'abord posée à la population et non pas que les élus décident eux-mêmes quel est leur régime indemnitaire, qu'ils écrivent eux-mêmes leurs règles de pouvoir, ce qui a toujours été le cas, mais il serait peut-être temps un jour de changer la conception des choses.
Et alors vous feriez comment? C'est-à-dire vous soumettriez à référendum le niveau de rémunération des élus?
Il y a tout un travail à faire pour que les citoyens puissent s'impliquer davantage dans la vie publique. Qu'il y ait des conseils citoyens, ça fait partie des propositions d'Anticorps, pour évaluer le cas échéant, le contrôle des indemnités et faire des propositions qui seraient non pas seulement consultatives, mais vraiment délibératives.
Qu'est-ce que vous en pensez, Romain Colas?
Sur ce qu'était votre première question d'abord, parce qu'il y a dans le débat public aujourd'hui cette dimension que vous évoquez, demain, s'il n'y a plus de cumul, on va avoir des pauvres députés malheureux qui vont errer en haillons dans les couloirs de l'Assemblée nationale parce qu'ils n'auront plus leur indemnité d'élus locaux pour pouvoir s'habiller. Enfin tout ça est juste une blague, soyons sérieux, il y a un écrêtement. Je l'évoquais tout à l'heure, et en étant uniquement parlementaire, il y a quand même pas mal à l'Assemblée nationale qui sont aujourd'hui dans cette situation, demain ils le seront tous et c'est très bien comme ça, on gagne quand même bien sa vie. Je vous rappelle les niveaux que j'évoquais tout à l'heure, 5 000 € d'argent qui est de l'argent à soi, sur lequel d'ailleurs on paiera demain de l'impôt sur la totalité, parce que je veux revenir sur ce que disait Séverine Tessier, il y avait une anomalie. Sur l'IRFM, on peut en débattre. Il faut l'intégrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu si on considère que c'est le revenu du député. Moi, je fais partie
l'IRFM,
de ceux qui le...
rappelez-nous ce que c'est.
C'est l'indemnité représentative de prêt de mandat. Concrètement, pour moi, c'est ce qui me sert à payer ma permanence parlementaire. C'est ce qui me sert à payer un document quand j'informe la population, dans le respect de la loi, évidemment. Donc pas en période électorale, de l'activité qui est la mienne. C'est ce qui paye mon site internet, l'essence de ma collaboratrice quand elle se déplace en circonscription, et même un peu du salaire de mes collaborateurs parce que moi, j'ai souhaité leur donner un niveau de rémunération un peu plus satisfaisant que ce que permettait l'enveloppe dédiée, celle qui fait débat dans l'affaire Fillon. Et donc je suis prélevé chaque mois d'une partie de mon IRFM qui va en rémunération de mes collaborateurs. C'est inscrit sur leur fiche de paye, il y a des cotisations sociales, évidemment de l'impôt là-dessus. Mais pour revenir sur la fiscalité, il se trouve que l'indemnité parlementaire, donc le salaire du député de l'ordre de 5 000 €, les parlementaires ne payaient, j'ai jamais su pourquoi d'ailleurs, de l'impôt sur 4/5. Il y a 1 000 € qui échappaient à l'impôt. Ben, nous avons voté, moi j'ai déposé avec plusieurs de mes collègues, c'est notamment Christine Pires-Beaune qui a porté ce combat en commission des finances, un amendement qui permet, avec le prélèvement à la source, que désormais les parlementaires soient payent de l'impôt sur la totalité de leurs indemnités. Il en va de même d'ailleurs pour les indemnités d'élus locaux. Ceux-ci bénéficiaient d'un régime particulier de prélèvement à la source qui était très favorable. Leurs indemnités seront désormais intégrées dans l'assiette classique de l'impôt du ménage. Sur le rôle qui doit être dévolu aux citoyens sur la fixation des indemnités des élus, faut trouver les modes opératoires. Voilà, mais là, ça renvoie à un débat plus vaste. Moi, je suis prêt à l'avoir, mais je suis pas sûr qu'on ait le temps de cette émission pour cela. Sur la place du citoyen dans la décision publique et quelle place on laisse encore à la démocratie représentative. C'est quel équilibre on doit trouver. Ça, c'est les questions qui sont ouvertes. J'espère d'ailleurs que la campagne qui s'ouvre, présidentielle, législative, elle va vous permettre d'avancer sur ces sujets-là.
Alors, vous avez évoqué la question des collaborateurs parlementaires. Les députés ont une enveloppe de 9 504 € bruts mensuels pour rémunérer ses collaborateurs. C'est un petit peu moins pour les sénateurs. 7 548 €. Abel François, est-ce que c'est une enveloppe qui vous paraît suffisante aujourd'hui pour rémunérer correctement le travail de ses collaborateurs qui sont indispensable pour les parlementaires? Et est-ce que là aussi le fait de finalement de donner la même somme à l'ensemble des députés et des sénateurs sans que l'on prenne en compte peut-être leur niveau, on va dire, d'implication dans la vie parlementaire, est-ce que là ça crée pas également des déséquilibres?
Tout à fait. J'en reviens à ce que je disais précédemment. C'est la question de par rapport à quoi on met en balance cette rémunération. Si le crédit collaborateur, effectivement, de 9 500 € pour un député qui sera fortement investi dans un travail très technique de mise en forme de la loi, d'étude de la loi, de rapport, d'activité législative classique ou même de contrôle de l'exécutif, c'est vrai que 9 500 € pour faire tourner cette petite entreprise autour de cette activité, ça peut paraître peu. Par contre, pour le député qui va se soucier exclusivement de sa circonscription, qui aura une activité un peu plus faible au niveau du Parlement, bah, peut-être que ces 9 500 €, c'est largement suffisant. Mais ça renvoie à un problème plus général, qui est la perte de valorisation, non pas financière, mais d'un point de vue politique ou électoral ou même institutionnel, du rôle des parlementaires français. C'est-à-dire qu'on a des parlementaires français qui finalement, pour une partie, essaient de travailler, mais dont le travail par leur parti, que lorsqu'ils travaillent bien au sein du Parlement, le parti revalorise généralement assez peu ce travail, par des postes de ministère, par un avancement dans la carrière politique. Les électeurs sont un peu réticents également, parce qu'ils ont du mal à avoir cette information sur l'activité parlementaire de leurs représentants. Donc, plus la faiblesse constitutionnelle du Parlement français fait que l'activité au Parlement est assez peu valorisée.
Mais donc, si je suis votre logique, Abel François, ça veut dire que plus un parlementaire va travailler et va être actif, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, plus on imagine qu'il a besoin de collaborateurs parlementaires. Or, vu que l'enveloppe est la même pour tout le monde, moins ces collaborateurs vont être payés.
Tout à fait, on pourrait mettre en place des mécanismes un peu plus incitatifs, c'est-à-dire que on pourrait donner plus de budget, plus de ressources aux députés qui sont les plus engagés, comme ça se fait ailleurs d'ailleurs, dans d'autres pays, mais ça se fait au travers des activités des commissions, c'est-à-dire qu'on a des commissions qui sont beaucoup plus instituées, avec des présidents ou des secrétaires de commissions qui sont beaucoup plus instituées, qui possèdent dans ce cas-là des budgets pour mener à bien le travail de la commission. Mais là, c'est pas des budgets qui sont individualisés, ce sont des budgets qui sont liés au poste de secrétaire de commission de la défense, par exemple, de secrétaire de la commission qui va traiter des affaires des finances publiques, etc. Donc là, c'est plus des budgets individuels, ce sont des budgets qui sont liés à un poste, à une responsabilité au sein du Parlement.
Vous qui avez été assistante parlementaire pendant de longues années, Séverine Tessier, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Abel François et de cette situation qui peut différer et qui diffère de toute manière d'un élu à un autre?
Oui, alors en plus j'ai été en fonction responsable syndicale. Donc nous avions saisi le tribunal d'instance pour demander la reconnaissance d'une unité économique et sociale et appliquer le droit collectif du travail. Mais le problème qui se posait en amont, on n'aura pas le temps là, mais c'était quand même la question du statut des collaborateurs de droit public ou de droit privé. On a préféré, les députés ont choisi d'opter pour, et on les comprend puisqu'ils tiennent à cette gestion discrétionnaire, ils ont choisi d'opter pour le régime type entreprise. Nous considérons que notre travail était, pour ce qui me concerne, un service public législatif et payé par de l'argent public, par une personne assimilé, on va dire, selon le critère organique au droit public.
Donc il aurait fallu que vous soyez payé par l'Assemblée nationale ou
payé
par le Sénat?
Payé par l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le 13e mois était payé par l'Assemblée nationale. Ensuite, on a décidé de faire un mandat de gestion pour permettre à certains députés d'externaliser. Certains le font, bizarre, mais bon, c'est comme ça qu'on considère, effectivement, comme entreprise, un député avec un numéro SIRET, ce qui est quand même étonnant, parce qu'une entreprise a pour but de produire des biens et des services. Et une entreprise, aux critères vraiment juridiques, doit également fournir un équilibre de ses comptes. Bon, aujourd'hui, bref, on a une gestion qui est très discrétionnaire, qui permet à certains députés qui n'ont pas une grosse activité parlementaire, de n'embaucher qu'une personne ou deux personnes, voire de faire essentiellement de la communication politique. Et puis à d'autres députés, au contraire, qui ont une grosse activité, d'avoir cinq collaborateurs, mais très très chichement rémunérés, puisque l'enveloppe, elle est fixe. Et comme vous comparez, par exemple, l'enveloppe d'un député, même si c'est différent, le travail est quand même une présence. Et puis celui, l'enveloppe des collaborateurs parlementaires pour jusqu'à cinq contrats, vous voyez quand même qu'il y a un traitement qui est quand même assez particulier.
Mais la piste, ça pourrait pas être justement d'augmenter cette enveloppe selon le niveau d'activité du parlementaire.
On peut chercher toujours plus. On peut aller toujours plus loin. Et plus on donnera, et plus il y aura besoin de toute façon. La question, de toute façon aujourd'hui, la nature même du travail parlementaire a évolué. Moi, j'ai vu arriver les lobbyistes à l'Assemblée. J'ai aussi vu certains groupes politiques. Ça a été très largement médiatisé, externaliser le travail parlementaire à des cabinets de conseil juridique. Donc aujourd'hui, la loi, qui fait la loi ? Sous quelles influences ? Comment sont rédigés les amendements ? Ça, ce sont des questions sur le fonctionnement démocratique qui ne sont pas des questions financières, ce sont des questions d'éthique et c'est des questions de contrôle avant tout.
Romain Colas, est-ce que vous, comme député, vous tenez à cette capacité que vous avez, à cette liberté que vous avez d'attribuer les salaires de manière discrétionnaire à vos collaborateurs parlementaires ?
Pas spécialement, parce que j'ai pas une âme de chef d'entreprise, et pour tout vous dire, d'ailleurs ils m'écoutent, mes collaborateurs, donc je pense qu'on aura une discussion sur le sujet demain. Ils nous écoutent, pardon. C'est pas le moment que j'ai trois collaborateurs, j'ai une secrétaire qui assume des missions de secrétariat, et puis deux collaborateurs, l'une en circonscription, qui gère mes rendez-vous avec les administrés, qui suit les dossiers, parce que notre autre interlocuteur évoquait le travail parlementaire à l'Assemblée, qui est insuffisamment reconnu. Hein. La meilleure façon de se faire réélire, c'est effectivement de labourer sa circonscription, d'aller serrer des pognes et de gérer des dossiers individuels. Ça peut assez vite dériver d'ailleurs dans le clientélisme, plutôt que de s'engager au Parlement. Moi, je vous remercie de m'inviter, mais enfin, j'ai pas fait beaucoup de radio et de télé quand j'ai produit mon rapport sur le financement des partis politiques, bien que ce soit, à mon avis, du rôle du Parlement dans le contrôle des budgets publics. Donc non, je tiens pas spécialement. Et j'ai un autre collaborateur, pardon, pour revenir sur votre question initiale, qui lui suit le travail législatif, qui partage mon bureau à l'Assemblée nationale.
Donc ça vous arrangerait qu'il soit directement rémunéré, pardon, par l'Assemblée nationale?
Oui,
ça
pourquoi pas avec une grille de salaire, voilà, parce que moi c'est pas, je vous avoue que c'est vraiment, j'ai pas cette âme-là. Ça a pas été le moment. Puis je me sens pas apte forcément à juger de la qualité d'une personne. Ce que je sais, c'est que parmi mes collaborateurs, celle qui travaille en circonscription, j'ai la chance d'avoir une jeune femme qui est docteur en droit. Docteur en histoire, et je trouve que pour une doctorante, elle est assez mal rémunérée, quoi. Ouais. Voilà, et elle fait un boulot formidable.
Alors le temps passe vite, hein, et forcément dans cette émission, on a évoqué, on pourrait pour chacun des thèmes y consacrer une émission spécifique, mais on a évoqué la question de la rémunération des élus. Actuellement, on est en pleine campagne présidentielle, et puis les législatives vont arriver très vite, et se pose aussi la question, quand on parle de financement de la vie politique, de la question du financement des campagnes. J'évoquais en tout début d'émission les problèmes auxquels le Front National dit être confronté pour financer ses campagnes électorales. Écoutez ce qu'on disait il y a quelques jours de cela sur BFM, Louis Alliot, c'est le vice-président du Front National.
Vous faites peur aux banques, le Front National, toujours et encore?
Alors je ne sais pas si on fait peur aux banques, mais eux n'ont pas peur de l'argent qu'on leur porte. Parce que c'est toujours le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Ces banques refusent de nous prêter, mais elles acceptent quand même les 30% de citoyens du Front National qui sont leurs clients. Il y a là, moi, matière à révolte, je le dis franchement.
Louis Alliot, les banques se méfient de tous les partis, en fait. Oui, il n'y a pas que le Front National. Les autres arrivent à trouver de l'argent privé, ce qui est peut-être plus difficile pour vous.
Non, l'argent privé est une chose, mais les banques prêtent. Avec le Front National, ce n'est pas possible. Mais écoutez, nous tournons, nous, vers le marché bancaire européen.
C'est ça.
Vers d'autres pays étrangers, s'il le faut.
Qui? Parce que y a
qui, n'importe qui.
La Russie, vos alliés, l'Autriche.
Mais la Russie, pourquoi pas les États-Unis? Mais pourquoi pas Israël? Pourquoi pas l'Iran? Je ne sais pas.
Voilà, Louis Alliot sur BFM TV il y a quelques jours de cela. Abel François, alors il y a la question sans doute spécifique du Front National, qui est un parti qui peut, on va dire, faire un petit peu peur à certains établissements bancaires. Mais pour autant, est-ce que l'accès aux prêts bancaires est un vrai problème aujourd'hui dans le financement de la vie politique française ?
Apparemment, non. Non, c'est pas un problème parce que, en fait, le prêt bancaire est utilisé par les partis et les candidats pour éviter d'avoir à faire un apport personnel. Parce que le mécanisme de financement des campagnes électorales repose sur l'idée que ce sont aux candidats à apporter les fonds qui vont leur servir pour leur campagne et qu'ensuite, l'État, dans une certaine limite, va rembourser les fonds qui sont apportés d'un point de vue personnel. Donc pour éviter d'avoir à mettre ses propres deniers dans ses campagnes, la plupart des candidats et des partis politiques utilisent les prêts bancaires de manière à, comme ça, ne pas avoir à avancer eux-mêmes les sous. Et généralement, les banques, pour les candidats en tout cas, qui peuvent accéder au remboursement de l'État, les banques ne soulèvent généralement pas de problème pour financer des campagnes. D'autant plus, alors, pas tant pour la présidentielle où les montants en jeu sont plus importants, mais pour les élections locales ou les élections parlementaires, les montants en jeu ne sont pas énormes. Donc pour les banques, c'est assez peu risqué.
Et puis ça permet aussi aux banques de... Accéder au remboursement de l'État, je précise juste que c'est... On accède au remboursement de la moitié des sommes dépensées à partir du moment où on dépasse 5% des voix, ce qui, pour le Front National, pour la présidentielle prochaine, est quand même à peu près garanti. Hein.
Oui, mais le Front National a aussi une difficulté par rapport à ça, c'est que les poursuivis, enfin, en tout cas, il y a une enquête de justice qui est faite autour de ce mécanisme qu'il avait mis en place avec le micro-parti Jeanne, autour justement de cette question de l'apport des candidats et du remboursement public. Donc c'est peut-être aussi ça, ce mécanisme-là, qui fait peur aux banques.
Alors justement sur cette question des micro-partis, Séverine Tessier, est-ce que c'est un phénomène qui se développe et qui témoignerait là aussi d'un problème de financement de la vie politique, c'est-à-dire des financements, des donations qui sont plafonnées et qui obligeraient les formations politiques à essayer de multiplier les organisations pour avoir davantage de fonds?
Alors sur ce sujet, je vous renvoie à la note du site d'Anticor qui est sur le site anticor.org où nous avons effectivement critiqué cette multiplication des micro-partis, mais tout simplement parce que ça renvoie à la règle selon laquelle alors le financement de la vie politique concerne les campagnes et les partis. Et nous sommes dans un système qui est très largement partidaire et qui favorise de fait l'appartenance à un parti politique. Donc il est très difficile pour un candidat sans étiquette, par exemple, d'accéder à un prêt bancaire parce que la banque fait de fait une estimation de sa probabilité à atteindre un certain seuil.
Sauf peut-être quand on a été banquier d'affaires, ce qui donne
peut-être
quelques relations.
Peut-être que ça facilite les choses, ainsi que les liens avec des fondations, etc. Enfin, mais, et donc le sujet, et c'est ce à quoi d'ailleurs renvoie la question des primaires, tiendrait dans l'évolution peut-être à faire évoluer le côté participatif. Et du coup, à se poser autrement la question du financement de la vie politique, ne plus favoriser les rentes de situation pour les partis ayant déjà des députés, puisque c'est de fait une faveur qui leur est accordée. Ça crée une discrimination envers les candidats et ça limite les possibilités de renouvellement. Et accorder davantage d'importance au financement participatif et à une prise en charge directe par l'État, des campagnes électorales. Sans doute, l'inventivité le permettrait, mais pour l'instant, on est un peu bloqué de ce point de vue-là.
Et quand vous dites un financement direct, vous sous-entendez direct et exclusif, c'est-à-dire ce serait uniquement l'État qui financerait les campagnes?
Ce qui est sûr, c'est que le problème aujourd'hui, qui est récurrent depuis les années 80, puisqu'on a légiféré à chaque scandale, on a fait, nous, des années 80, 90, le problème qui était récurrent, c'était comment les entreprises, par leur financement, influencent les campagnes. Et elles le font, alors on a réglementé, on a interdit le financement. Donc ça s'est fait par des dons de particuliers qui sont quand même relativement élevés. Et puis
7500 euros par an.
Voilà.
Par parti.
Par parti.
On peut financer plusieurs partis,
mais c'est plafonné. Par des soutiens directs aux candidats. Donc un patron d'entreprise peut, à titre individuel, soutenir un candidat. Et puis, il y a aussi toutes ces fondations qui prolifèrent et qui mélangent les genres et qui, de fait, contribuent à une aide matérielle. Parce qu'elles assurent sur une promotion parce qu'elles hébergent des candidats ou ceci, cela. Ça crée de fait une situation assez compliquée dans le rapport avec les hommes politiques. Donc, imaginons de reposer tout ça à plat, de rediscuter sur une démocratisation du financement de la vie politique et puis plus généralement une inéquité là encore entre les candidats.
Romain Colas.
Oui, juste une précision, le 7500 il est par personne oui. Désormais, depuis la loi sur la transparence de la vie politique, auparavant vous pouviez donner plusieurs fois 7500, maintenant c'est 7500 par personne et par an, c'est un plafond absolu.
Justement, ah, on peut pas donner 7500
à différents partis,
voilà,
ou à différents
d'accord.
candidats. Ah, justement, dans un souci de juguler le phénomène des micro-partis, parce qu'en fait un micro-parti c'est quoi ? Vous faites votre caisse personnelle, vous pouvez encaisser 7500 euros de dons que vous avez à votre disposition, parce que bien souvent le micro-parti il est composé de vous-même. Voilà. Sauf à devenir même un système qui vise à contourner l'esprit de la loi, et ça, c'est les affaires autour du Front National, Jeanne, etc. Je vais revenir sur l'histoire du Front National. Parce que, Séverine Tessy l'a dit, les banques, elles évaluent leurs risques. Après, on partage pas forcément le même sentiment sur le fait de savoir s'il est bien ou non que notre régime soit partidaire. Il se trouve que la Constitution, dans son article 4, dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et au fonctionnement de notre démocratie.
Risque financier zéro là pour les banques.
Tout ceci mis à part. Ben si, risque financier s'agissant du Front National, il est conséquent, et donc il est conséquent pourquoi ? Parce que vous avez des paquets de comptes de candidats investis par le Front National qui sont invalidés. Pourquoi ? Parce que la justice est en train de travailler dessus, il y a des dépenses qui sont insincères, qui sont retracées aux comptes de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc elle réforme des comptes et ça veut dire qu'elle ne rembourse pas ou qu'elle rembourse partiellement. Ça veut dire que la banque à la fin elle se retrouve face à un risque. Voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe ? La vérité, c'est que la place bancaire n'a pas confiance dans le Front National parce que celui-ci s'est rendu coupable d'un certain nombre d'errements dans la gestion des comptes de campagne de plusieurs élections, qu'il s'agisse d'élections régionales, législatives et autres. Et d'ailleurs, la justice, encore une fois, se penche sur le cas. La banque, elle mesure son risque. Et je comprends qu'à l'égard du Front National, au regard de ce que sont ses pratiques en matière de finances, je comprends que le secteur bancaire soit circonspect.
Séverine Tessier.
Il y a donc, je disais tout à l'heure sur les micro-partis, il y a eu des dérives et j'oubliais justement qu'actuellement, un des sujets qui concerne la campagne de François Fillon notamment, puisqu'il a un micro-parti récipiendaire de fait des fonds qui ont permis de financer la primaire. Donc la question est de savoir aujourd'hui, je crois qu'il s'agit de 9 millions d'euros, comment sont utilisés ces financements et puis s'ils seront remboursés par le contribuable, in fine, au titre des frais de campagne. Donc, j'ai vu qu'il avait fait imprimer, je crois, 4 millions de tracts pour défendre son honneur, etc. Mais enfin, à partir du moment où on vient solliciter la confiance des électeurs et que, par ailleurs, le contribuable serait éventuellement amené à rembourser ces sommes, s'il était condamné ou s'il était, à un moment donné, clairement et plus explicitement mis en cause par la justice, on imaginerait un électeur, un contribuable qui vienne demain demander des comptes sur son financement non consenti à la campagne, puisque là, ça n'est pas encore possible, mais qui sait demain.
Enfin là, il y a quand même beaucoup de si hein, dans l'hypothèse que vous évoquez. Écoute, Abel François, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il y a peut-être encore trop de souplesse et donc trop de zones de flou en ce qui concerne le financement des formations politiques et des campagnes électorales ? Ou bien est-ce qu'il y a quand même la nécessité de laisser un peu de marge de manœuvre aussi aux candidats et aux partis pour pouvoir diversifier, disons, leurs sources de financement ?
Je voudrais juste revenir, avant de répondre à votre question, sur la question des petits partis. À quoi servent les micro-partis ? Nous, on le montre noir sur blanc dans notre livre avec Éric Philippot. Les micro-partis en France ne servent pas à financer les activités de campagne. Les micro-partis, ce sont juste des caisses d'assurance pour les politiciens qui ont des ambitions nationales vis-à-vis de leur parti. Pourquoi ? Parce que notamment avec le développement des primaires, la concurrence s'est aussi déplacée à l'intérieur des partis. Donc, à l'intérieur des partis, celui qui tient les rênes du parti, notamment les rênes financières, a un avantage par rapport aux autres. Donc, si vous êtes concurrent par rapport à celui qui tient les rênes, c'est très difficile pour vous parce que vous avez besoin de financement pour mener votre campagne de primaire, votre campagne interne au parti. Ça devient difficile si vous n'avez pas cette possibilité-là d'utiliser un petit parti, de mener mener à bien votre campagne interne. Après, pour répondre plus exactement sur votre question, je pense qu'il faut quand même laisser de la souplesse sur l'origine des dons que peuvent recevoir, enfin l'origine des fonds que peuvent recevoir les hommes politiques, notamment et surtout par rapport aux particuliers, par rapport que ce soit les adhérents ou que ce soit les électeurs en général. Il me semble très important que les hommes politiques aient encore ce lien-là, cet effort à faire, d'aller chercher chez leurs électeurs potentiels ou chez les abstentionnistes une adhésion qui pourrait passer notamment par un don, ce qui reste des dons symboliques. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis, notamment où Obama avait financer la quasi-intégralité de sa campagne par la multiplication de petits dons, ce qui est notamment rendu possible par des évolutions technologiques. Donc il me semble important qu'il faut laisser cette liberté aux hommes politiques d'essayer de rencontrer leurs électeurs, de rencontrer les citoyens, notamment au travers d'une démarche d'un besoin de financement, pour essayer de les comprendre, pour échanger avec eux, pour avoir de l'information, etc. Et ça signifie pas, c'est pas parce qu'ils vont avoir cette démarche-là vis-à-vis des électeurs, que ce sera une démarche de corruption ou d'achat de voix ou que sais-je encore.
Est-ce qu'on a, Abel François, des contre-exemples de financement de campagne et de partis politiques qui seraient exclusivement publics ? Alors, je ne parle plus de la France, du coup, mais peut-être dans d'autres pays.
Exclusivement public, à ma connaissance, ça n'existe pas. Parce que dans ce cas-là, en fait, ça passe notamment par les partis, et les partis deviennent totalement des agences d'État. Donc, il est très difficile de financer à 100% l'intégralité de l'activité politique par l'État. Parce que, notamment, ça va couper totalement le lien entre les élus, entre les hommes politiques et leur électorat. Déjà, là, on l'a coupé entre les élus et les entreprises. Mais si, en plus, on le coupe vis-à-vis des électeurs, vis-à-vis des citoyens, déjà qu'on a des taux de participation, des taux d'intérêt, des niveaux d'intérêt pour la politique qui ont tendance à diminuer, j'ai peur que si on casse ce lien-là supplémentaire, eh bien, on se retrouve avec des taux d'intérêt, des taux de participation et de l'intérêt pour la politique qui sont encore plus faibles. Parce que les hommes politiques n'auront pas à faire cet effort d'aller vers l'électeur, d'aller vers le citoyen pour trouver un financement et donc, au final, pour mener à bien leur campagne.
Romain Colas, c'est Séverine Tessier, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'on peut dire quand même que, même si tout n'est pas parfait, on progresse au fil des années sur cette question du financement de la vie politique ? Alors, c'est souvent après des scandales, Affaire Urba, par exemple, Affaire Carrefour du développement dans les années 80, qui ont quand même beaucoup contribué à modifier les règles du financement. Et puis, plus récemment, évidemment, l'affaire Cahuzac. On progresse dans la bonne voie pour vous, Romain Colas ?
Oui, puis globalement, moi qui ai travaillé, l'objectif premier de mon rapport, c'était de faire un état des lieux de la législation et de mesurer son efficacité. Je crois qu'on a un système qui est parmi les plus complexes d'ailleurs, s'agissant notamment de ce qu'on demande aux candidats de justifier en termes de dépenses électorales. On a un système qui est relativement complet, mais il reste quelques trous dans la raquette. Et c'est d'ailleurs le sens des propositions que j'avais formulées, trous dans lesquels d'ailleurs le Front National est un grand spécialiste pour les repérer et pour les utiliser au travers de ces micro-partis.
Je crois
on progresse. Moi, je viens d'entendre ce que disait Abel à l'instant. Je pense qu'il faut, d'abord, on n'a pas besoin d'avoir un rapport d'argent avec l'électeur pour être en proximité, en empathie, en compréhension avec lui, même si j'entends ce qu'il dit. Moi, je suis pour le système mixte. Un système où il y a des contributions individuelles, surtout pas de personnes morales plafonnées, et puis un financement public, parce que c'est ce qui évite qu'on aille chercher de l'argent ailleurs, et c'est ce qui permet une certaine équité, même si on peut discuter des critères de sa distribution. Et puis, il y a une notion qui est fondamentale, qui est un vrai atout du droit français. Et il faut réfléchir comment on l'étend aux partis dans leur fonctionnement courant. C'est le plafonnement des dépenses. C'est, à mon avis, ce qui fait de notre système l'un des plus vertueux, même si évidemment il y a encore des failles à combler, c'est qu'on plafonne les dépenses. Donc à un moment, on n'est pas tenté d'aller chercher de l'argent ailleurs, sauf à se rendre coupable de malversation. Ça, c'est l'affaire Big Malion.
Voilà, et vous bouclez la boucle avec l'introduction de cette émission. Malheureusement, désolé Séverine Tessier, j'ai pas le temps de vous faire réagir une dernière fois. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Séverine Tessier, donc cofondatrice de l'association Anticor. Abel François, je renvoie vers votre ouvrage Le financement de la vie politique, Charmant Colin. Romain Colas, député socialiste de l'Essonne. Émission que vous pouvez réécouter comme chaque jour sur notre site internet franceculture.fr, la page du grain à moudre. Merci à toute l'équipe de l'émission, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Louise Fuseau, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Jean Frédérics. Demain, la mise en scène des aventuriers a-t-elle dénaturé l'aventure ? Ce sera d'autres questions à partir de 18h20.